Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. L'actualité immédiate, ce sont les franco-russes dont nous vous avons longuement parlé lors de notre précédent numéro avec Thierry Dargoubet, le délégué général de l'Orchestre National du Capitole et organisateur du festival. Ce sont aussi les prochains concerts de la saison Toulouse Guitare et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse qui vont être également retransmis en direct sur leur page Facebook respective vendredi 26 mars. Il y a donc des événements très intéressants à noter sur vos agendas la semaine prochaine. En attendant, nous allons consacrer la présente émission à un compositeur et à la découverte d'une partie de son œuvre. Les fidèles de Mélomanie savent que nous nous sommes déjà livrés à cet exercice lors de séries dédiées à Beethoven, à Bach et depuis quelques semaines à Mozart. Mais ce n'est pas la poursuite du cycle Mozart que ce numéro est consacré, mais, et ça va peut-être étonner certains d'entre vous, à Robert Schumann. Encore plus étonnant, pour nous parler du grand compositeur romantique allemand et de son œuvre, je reçois Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord. Tout ça doit vous paraître un peu mystérieux, nous allons donc vous en dire plus dans quelques instants. Retour arrière sur l'œuvre pour piano de Robert Schumann.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Michel, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous de Mélomanie. Alors je vais tout de suite préciser que c'est vous qui m'avez proposé de faire cette émission sur l'œuvre pour piano de Schumann et je dois avouer que j'ai été moi-même fort étonné d'apprendre que l'admirateur inconditionnel de Jean-Sébastien Bach que vous êtes vouait aussi une sorte de culte à Robert Schumann, le compositeur romantique par excellence. Pourquoi ce musicien et son œuvre vous touchent-ils tant, vous, le baroqueux ?
Alors, effectivement, je peux comprendre que ça puisse surprendre, mais je pense que c'est très important de ne jamais enfermer personne dans des petites cases, ce qu'on a peut-être trop tendance à faire parfois, à tous les niveaux d'ailleurs. Hein. Donc, par mon expérience personnelle, c'est plus modeste comme ça, je ne pourrais pas l'étendre à d'autres, mais on va dire que la vie d'un artiste, d'un musicien en l'occurrence, est faite de hasard, est faite de formation, bien sûr, de choses tout à fait terre à terre, mais aussi de hasard, et que le hasard peut faire qu'à un moment donné de sa vie, on s'oriente dans une direction et qu'à un autre moment donné de sa vie, on s'oriente dans une autre direction. Je pense qu'on pourrait être surpris, moi qui parlais de modestie, ça va peut-être sembler immodeste de prononcer son nom, mais tant pis, c'est parti. Si on pense à Picasso, ses œuvres les plus abstraites, auxquelles on rattache l'image de Picasso, si on voyait certaines de ses œuvres, en particulier de jeunesse, mais pas seulement, très figuratives, on pourrait se dire, c'est incroyable qu'il ait fait les deux. Eh bien, très modestement, à ma place, voilà, j'estime qu'on peut aimer beaucoup de choses en musique, les hasards aussi, et le goût très prononcé pour Bach ont fait que mon activité s'est plus développée vers la musique baroque et vers la musique de Bach, mais il y a ce jardin secret. Juste, je dois avouer une dernière confidence et après on parlera d'un personnage beaucoup plus important qui est Robert Schumann, mais j'ai fait beaucoup de piano, on va dire dans ma jeunesse, aux environs d'une vingtaine d'années, et dans cette pratique du piano, c'était bien la musique de Schumann qui me parlait le plus. Alors évidemment, après, je dois dire que j'ai eu une période de rejet du romantisme et que je n'ai plus pu en pratiquer, presque plus pu en écouter pendant un certain temps. Et puis voilà, la vie et ses méandres et ce qu'elle est. Et voilà, j'ai redécouvert l'immense plaisir d'écouter et de pratiquer modestement cette musique de Schumann.
Et vous vous êtes replongé dans son œuvre. Je sais que vous y avez pris beaucoup de plaisir, ça va se voir pendant cette émission. Alors Robert Schumann, né en 1810, comme Chopin, un an avant Liszt, qui lui est né en 1811, on les réunit souvent, hein, ces trois-là. Qu'est-ce que son œuvre pour piano a de particulier par rapport à celle d'un Chopin ou d'un Liszt ?
Ah, il y a beaucoup de choses, parce que Schumann est une personnalité extrêmement complexe, on va le voir au fil de cette émission, et c'est probablement un des compositeurs, romantiques en tout cas, dans lequel la personnalité a le plus influencé la musique.
Et infusé dans
infusé,
la musique.
Voilà, c'est dans absolument, la c'est le bon mot, infusé. Et donc, c'est caractéristiques propres qui font les caractéristiques propres à sa musique. Mais une différence déjà très importante, évidemment, tous les trois sont des compositeurs romantiques, donc avec la même vision, on va dire, du rôle de l'art, qui est d'exprimer les sentiments intérieurs.
Les plus profonds.
Les plus profonds, voilà, de les exprimer, on peut dire, parfois sans pudeur. Et ces sentiments sont souvent, surtout pour Chopin et Schumann, des sentiments qu'on pourrait qualifier de tristes, voilà, hein, pour faire simple,
mélancolique,
voilà.
En
mélancolique,
tout cas.
Voilà, triste, tendance à l'effusion, voilà. Mais Chopin était un immense pianiste. qui a donné des concerts pendant toute une partie de sa vie, etc. Or, Schumann était un pianiste raté, on pourrait dire. Alors, pas de sa faute, il avait du talent. Mais on connaît cette anecdote que, voulant développer son agilité digitale, il s'était inventé un appareil pour faire travailler plus particulièrement certains doigts. On sait que la main n'est pas égale, les doigts ne sont pas égaux dans la main. Hein. Il y a des doigts qui fonctionnent avec beaucoup plus de facilité que d'autres, comme l'index et le majeur. L'annulaire, par contre, est un doigt faible. Et l'auriculaire, le petit doigt, est également un doigt faible. Et donc, il s'était inventé une machine qui bloquait certains doigts et pour faire travailler les doigts les plus faibles. Et voilà,
il s'est blessé.
Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Parce qu'auparavant, il se plaignait déjà de
douleurs dans les bras,
très profondes au bras. Une preuve supplémentaire, à mon avis, que son psychisme influait déjà beaucoup sur son physique. Voilà. En tout cas, il s'est bloqué le doigt et donc il a dû renoncer à la carrière de pianiste. Et donc, ça doit être terrible dans un premier temps, puisqu'on voit que Chopin a fait la promotion de sa musique d'une certaine manière. Enfin, promotion n'est pas le mot, mais il a beaucoup joué. Liszt, alors ô combien. Alors lui, on peut parler de promotion, je pense, hein, vraiment, oui, à travers le monde. Et Schumann n'a pas pu le faire. Et donc, immédiatement, sa musique a revêtu un aspect différent, beaucoup moins brillant, beaucoup moins salle de concert, mais par contre, immédiatement, parlant de l'intérieur à l'intérieur, j'ai envie de dire, de l'intérieur de Schumann à l'intérieur de ses auditeurs. Et c'est peut-être ce qui rend cette musique particulière et plus difficile d'accès, probablement, que certaines musiques d'autres compositeurs romantiques comme Chopin et Liszt.
Voilà, le fait est que sa musique est effectivement moins directement accessible que celle d'un Chopin, en tout cas pour le grand public, et il reste assez méconnu du grand public. Schumann fait partie de ces compositeurs très appréciés des musiciens qui adorent le jouer en général. En revanche, le grand public, et on le voit dans les programmations de concerts, Schumann apparaît beaucoup moins souvent.
Voilà, tout à fait. C'est un compositeur difficile, il faut bien le reconnaître. Hein. Je ne voudrais pas mentir en disant que c'est facile d'écouter Schumann, en particulier sur un cycle complet, puisqu'il a écrit beaucoup, on en parlera, de cycles complets qui durent environ une demi-heure, disons. Hein, parce que c'est une musique de l'imaginaire, c'est beaucoup là-dessus que j'ai voulu insister dans le choix des œuvres pour cette émission. C'est une musique de l'imaginaire, et donc, si notre imaginaire ne rentre pas en communication avec son imaginaire, c'est vrai qu'on peut rester un petit peu étranger
à
la porte, absolument. Mais si on arrive à lâcher un certain nombre, peut-être d'a priori, de réticence d'écoute, de choses comme ça, alors là, on peut pénétrer dans un monde d'une richesse absolument extraordinaire.
Et c'est ce que nous allons faire durant cette émission. Alors, cette émission est consacrée à son œuvre pour piano seul. On va rappeler tout de même qu'il a composé des pièces de musique de chambre, des lieders magnifiques, des œuvres concertantes, 4 symphonies et un opéra, un seul, l'unique Genoveva, très rarement donné. Voilà, je referme cette parenthèse sur le reste de l'œuvre de Schumann. Nous allons écouter un premier extrait dans cette émission, extrait d'une des grandes œuvres de Robert Schumann, son Carnaval de Vienne, joué par ce merveilleux pianiste qui est Murray Peraya. On l'écoute et vous nous direz ensuite pourquoi vous avez souhaité commencer précisément avec cette œuvre et ce pianiste. Le Carnaval de Vienne de Robert Schumann, interprété par le grand pianiste américain Murray Peraya. Alors Michel, pourquoi avez-vous choisi cette pièce et ce musicien pour commencer cet hommage à l'œuvre pour piano de Robert Schumann ?
Alors cette pièce, ben écoutez, je pense que c'est tout simple. On dirait un manifeste du romantisme, hein, vraiment. Voilà, c'est-à-dire cette passion. D'ailleurs, il dit, le Schumann, qui écrivait beaucoup, ben, on en parlera dans l'émission, c'était un grand littéraire. Et donc, il utilise souvent beaucoup de textes pour définir le caractère, l'affect, disons, de ses pièces. Et donc là, il met avec une très grande énergie au début de cette pièce. Donc c'est l'intermezzo de ce Carnaval de Vienne. Voilà, le manifeste du romantisme, une espèce de passion qui transparaît et de confidence en même temps de cette passion. Hein, voilà, savoir la communiquer voilà, aux autres. Et puis alors pourquoi bah, ce pianiste bah, c'est pareil, il y a une évidence. En plus, enregistré en concert, s'il vous plaît, je pense qu'on pourrait, alors c'est comme beaucoup de la musique de Schumann, des pièces d'une difficulté technique absolument énorme, et je ne sais pas, on prête l'oreille, il n'y a pas une fausse note, mais ce qui ne l'empêche pas de faire de la musique à chaque seconde. Quoi. On entend tout, vous avez entendu comme on entend tout, cette basse très profonde qui donne l'élan, la mélodie qui se dégage en haut, et ce frémissement à l'intérieur de ces doubles croches qui sont les frémissements de l'âme,
il hein, n'y a pas ça, de doute. Frémissement de l'âme.
C'est absolument extraordinaire cette interprétation.
Alors, vous l'évoquiez à l'instant, il y a un autre aspect important de la vie et de la personnalité de Schumann, de sa formation intellectuelle et artistique, c'est qu'il est né dans une famille très littéraire, composée d'authentiques passionnés de littérature. Son père, notamment, Auguste Schumann, était libraire, éditeur et écrivain. Il s'inscrivait dans ce qu'on a appelé le mouvement Sturm und Drang. C'est même lui qui va traduire et introduire en Allemagne les œuvres de Byron et Walter Scott. Il faut savoir ça pour comprendre Schumann et sa musique, c'est fondamental.
Ah, c'est très très important, évidemment. Ben, comme pour tous les compositeurs, on en a souvent parlé à propos de Bach, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc on peut dire, on peut écouter Schumann et simplement trouver sa musique touchante, belle, et voilà. Mais il y a un arrière-plan, il n'y a pas de doute. Hein. Il était absolument fasciné par la littérature. Il a d'ailleurs hésité entre les deux, la musique et la littérature. Et les deux s'interpénètrent. Alors, bien sûr, là où c'est le plus net, c'est dans ses leaders, puisque les leaders, les mélodies,
s'appuie sur un texte.
S'appuie sur un texte, voilà, et qu'il avait une très illustre grande connaissance des poètes allemands de son temps, qu'il a illustré évidemment, mais même dans sa musique purement instrumentale, et en particulier dans la musique de piano, il faut savoir que la musique de piano, même pour quelqu'un comme lui qui donc n'avait plus la virtuosité qu'a eu Chopin pendant toute sa vie, le piano reste le compagnon de tous les jours. Voilà, il n'y a aucun doute que Schumann composait au piano, même s'il était donc atteint, il gardait quand même évidemment une grande capacité de pianiste, il ne pouvait plus faire carrière de virtuose, mais c'est tout. Et donc le rapport entre le goût de la lecture, la connaissance très intime et la sensibilité au texte littéraire et cette traduction immédiate à travers l'instrument de l'intime qu'est le piano, là chez Schumann c'est une évidence. Voilà, et ça explique qu'il ait mis parfois des textes entiers au début de ses pièces pour donc guider l'interprète dans l'interprétation.
Donc Schumann féru de poésie, en particulier de l'œuvre d'un poète et romancier allemand de l'époque qui s'appelle Jean-Paul Richter, très influencé par Jean-Jacques Rousseau. Hein. C'est pas neutre parce qu'on va parler de mélancolie évidemment concernant Schumann, on en parle pour la musique romantique et pour les compositeurs romantiques en général, mais voilà, je pense que cette influence de Rousseau n'est pas neutre.
Absolument.
C'est pas pour rien qu'il aimait Jean-Paul Richter.
Tout à fait, absolument. Et Jean-Paul Richter qui l'appelle d'ailleurs dans ses textes Jean-Paul, tout simplement, comme si c'était un ami, alors il ne l'a jamais côtoyé, mais une sorte de confrérie de sensibilité et d'affect, quoi, disons, voilà.
Alors, pour illustrer tout ce que nous venons de dire, voici un extrait d'une autre œuvre majeure de Robert Schumann, ces fameuses Kinderszenen, les scènes d'enfants. Cet extrait pour titre Le poète parle, et il est interprété par le grand pianiste roumain Radu Lupu.
Thank you.
Le poète parle, extrait des scènes d'enfants de Robert Schumann, interprété par le grand pianiste roumain Radu Lupu. Là, Michel, on est en plein dans la magie de l'enfance et l'univers littéraire et poétique propre à Schumann.
Tout à fait. Et alors, comme on le disait tout à l'heure, le titre qu'il a donné à cette dernière pièce, donc des scènes d'enfants, Le poète parle, nous montre bien son attachement à la littérature. Hein. C'est vraiment, on a l'impression d'entendre effectivement quelqu'un parler, ou plus exactement l'âme de quelqu'un parler. Voilà, hein, parce qu'il n'y a pas de parole à proprement parler, mais par contre, quelle confidence, enfin voilà. Et puis alors, ces deux premiers extraits, évidemment, montrent l'éventail de la palette expressive de Schumann, avec cet emportement de la première pièce, cette passion débordante, et puis là, cette retenue, cette pudeur, mais quand même cette confession du plus intime, du plus profond de ce qu'on ressent. Je pense qu'on commence à comprendre pourquoi j'aime beaucoup ce compositeur.
Oui, je pense que ça commence à filtrer, comme on dit. Alors, on en arrive à une des autres facettes de la personnalité de Schumann, on l'a déjà un peu évoqué, c'est ce côté tourmenté, mélancolique et même dépressif, hein, il faut prononcer le mot. Il a été beaucoup écrit là-dessus. Une des hypothèses concernant l'origine de cet état dépressif serait familiale, voire génétique. Par exemple, sa jeune sœur Emilia s'est suicidée.
Voilà, absolument. Elle s'est suicidée lorsque Schumann était son aîné de quelques années, mais c'est quelque chose qui l'a effectivement totalement bouleversé, probablement pour deux raisons. D'abord, sur un plan purement affectif, bien sûr, et ensuite parce que je pense que ça l'a renvoyé au début de ses troubles à lui.
À ses propres démons.
À ses propres démons, absolument. C'était quelqu'un qui très tôt a ressenti une très forte, alors ce qu'on appelait à l'époque mélancolie ou spleen, plus tard chez Baudelaire, par exemple, mais c'est ce qu'on appellerait maintenant peut-être un syndrome dépressif. Enfin, moi, je ne suis pas médecin et pas psychiatre, je me garderai d'utiliser des mots trop précis, mais effectivement, une attirance vers le bas et que sa musique porte, d'ailleurs, voilà, vers les gouffres. Bon, il a dit cette phrase dans son journal. Et pourtant, qu'est-ce que ce monde habité par des hommes ? Un immense cimetière de songes évanouis, un sommeil de mort avec des rêves sanglants, un jardin planté de cyprès et de saules pleureurs, un kaléidoscope muet avec des figures en larmes. Je crois qu'on ne peut pas dire plus qu'à 20 ans ou 22 ans écrire ça, c'est bien qu'on est effectivement quand même très attiré par...
Alors, il était très angoissé par la nuit, hein, et par les fantasmes qui y naissent.
Absolument, la nuit. Alors, on en parlera peut-être parce qu'il y a une pièce qui s'appelle Nachtstücke, voilà, donc c'est-à-dire les pièces de nuit, on pourrait traduire comme ça, ou les pièces nocturnes. Mais effectivement, il avait une vision de la nuit qui était très noire, et la fin de sa vie a été hantée par quelque chose de très particulier, mais je ne veux pas...
On ne va pas anticiper.
Anticiper, voilà.
Alors, il y a une autre hypothèse, c'est qu'il aurait pu contracter la syphilis.
Alors non, il a contracté la syphilis, ouais. Ça c'est une chose qui est certaine, mais est-ce que ses troubles mentaux venaient de ça ou pas ? Voilà, il semblerait, la science se penche maintenant sur ce type de sujet, et voilà, j'ai lu des textes comme quoi la science aurait tranché que ça n'est pas la syphilis qui aurait causé ses troubles mentaux.
On avait parlé de ça pour Nietzsche aussi, la folie de Nietzsche aurait pu être suite aux conséquences de la syphilis. Bon, mais à l'époque on parlait souvent...
Oui, tout à fait.
Apparemment tous les hommes plus ou moins auraient pu être en contact en tout cas avec la syphilis à cette époque.
Absolument. C'était, je pense, quand même, effectivement, objectivement très fréquent. C'était dû à certainement à la manière d'entrevoir la sexualité à l'époque, hein, des jeunes hommes.
La façon dont on la débutait.
Dans la façon dont on la débutait, voilà. Ce qui est étonnant, c'est effectivement cette dichotomie entre cette exaltation de l'amour absolu et puis les réalités de la vie, on va dire, qui étaient beaucoup plus pragmatiques
et prosaïques.
Et donc, beaucoup d'artistes de l'époque, effectivement, ont contracté la syphilis. Maintenant, il semblerait que ce ne soit pas la raison des troubles de Schumann.
La nuit, l'angoisse de la nuit, voici un extrait des Nachtstücke de Robert Schumann, interprété par le pianiste russe Emil Gilels. Thank you. Nachtstücke de Robert Schumann, un extrait interprété par le pianiste russe Emil Gilels. Un commentaire sur ces pièces nocturnes et l'extrait que nous venons d'entendre, Michel.
Voilà. Alors, je pense que ça parle aussi beaucoup de soi-même, hein, mais Schumann avait envisagé d'appeler cette pièce « Fantaisie des cadavres ». Et c'est Clara Schumann, dont on parlera dans un petit moment, qui l'a dissuadé de ce titre peut-être un tout petit peu trop excessif, quoi, disons, voilà. Mais on sent bien quand même cette espèce de hantise de la nuit, cauchemardesque, avec ses obsessions, ses fantômes, ses fantasmes, ses êtres monstrueux qui viennent la hanter. On pourrait la comparer, puisqu'on parle de nocturne, évidemment, quand on parle de nocturne, à qui pense-t-on ? On parle à Chopin, hein, voilà, et son magnifique cycle de nocturne. C'est une vision de la nuit d'un autre romantique, mais complètement différente. La nuit de Chopin, bien sûr, il y a quelques tourments toujours au centre du.
Oui, mais il y a la lumière de la lune, quand
mais
même.
Mais voilà, il y a la lumière de la lune, la lumière des chandelles, il y a l'aveu d'un amour qu'on n'ose pas faire, peut-être à sa bien-aimée, mais quelque chose quand même d'assez. Et là, la nuit, c'est un cauchemar. Voilà, c'est un véritable cauchemar pour Schumann qu'il a essayé de fuir pendant toute une partie de sa vie.
C'est les peurs nocturnes des enfants, hein, quelque
oui,
chose
absolument.
Qui renvoie à ça.
Ce que vous dites exactement, Schumann est quelqu'un qui est resté très proche de l'âme enfantine toute sa vie. On va le revoir à travers d'autres pièces. Et effectivement, ça peut tout à fait être la crainte de l'enfant qui veut qu'on laisse de la lumière dans sa chambre, absolument.
Alors, il y a d'autres hypothèses à propos de la maladie de Schumann et de ses troubles du comportement. On a évoqué un dédoublement de la personnalité, une schizophrénie, donc. Plus tard, des psychiatres, des psychanalystes parleront de psychose schizoïde, ce qu'on appellerait sans doute aujourd'hui des troubles bipolaires. Mais là encore, il n'y a rien de prouvé, évidemment, hein, ce sont des hypothèses.
Bien sûr, c'est des hypothèses. Ben, ce qui est certain, c'est que le regard qu'on a porté sur la folie, ce qu'on appelle la folie d'une manière générale, on peut en parler pour Schumann, bon voilà, c'est pas un beau mot parce que c'est réducteur, mais le regard a beaucoup changé. À son époque, on avait tendance, bon ben voilà, à mettre ça dans un gros paquet, la folie, on enferme comme ça n'est plus tenable, quoi, disons, pour
l'entourage.
La société, voilà, et on se posait pas trop d'autres problèmes. Il n'y avait ni traitement chimique, bien sûr, ni beaucoup.
Sachant que Schumann, en plus, pouvait avoir des accès de violence. Quoi.
Voilà, absolument, tout à fait. Ni traitement, on va dire, plus thérapeutique hein, de cette folie. Mais, en tout cas, ce qui est certain pour cette hypothèse de dédoublement de personnalité, c'est que lui-même a levé cette piste, quand même, puisqu'il s'est créé deux personnages. Il s'est créé trois personnages, en réalité.
Dans sa musique.
Dans sa musique, voilà. Eusebius, qui était donc son penchant rêveur, introverti, véléitaire aussi, de celui qui entreprend les choses, mais ne les mène jamais au bout,
tout par manque
d'énergie.
Bout.
Voilà. Un deuxième personnage qui était Florestan. Alors, son autre partie de personnalité, qui est donc le personnage entreprenant, fougueux, peut-être donc maniaque, ce qu'on appelle maintenant maniaque, c'est-à-dire aussi un peu énervant quoi, pour les autres, parce que...
Impétueux. Et soupolais aussi. Hein.
Soupolais, très envahissant, mais avec des élans qui se brisent. Voilà. Et puis un troisième personnage qui était Maître Raro et qui avait pour but de devoir concilier ces deux extrêmes. Donc, on voit quand même qu'il est allé loin. Il a poussé loin quand même le bouchon, on va dire, de l'existence de ces différentes personnes qu'il habitait.
Il y avait une confession dans sa musique aussi.
Oui,
c'était une manière de confession.
C'était une manière de confession, voilà, absolument.
Alors, il y a notamment dans son célèbre Carnaval, dont le titre initial était, je le rappelle, Scène mignonne sur quatre notes, deux morceaux qui se succèdent intitulés Eusebius et Florestan. Eusebius est en mi bémol, Florestan est en sol mineur, dont Florestan, ça illustre son côté emporté, impétueux et même soupolais, comme je le disais. Nous allons écouter Florestan, justement, sixième pièce du Carnaval de Robert Schumann, et c'est la pianiste française Ren Gianoli qui l'interprète.
Thank you.
Florestan, sixième extrait du Carnaval de Robert Schumann, interprété par Ren Gianoli. Il existe de nombreuses versions du Carnaval. Pourquoi vous avez choisi celle-ci?
Alors voilà, bonne question. Bon, peut-être une certaine forme de nostalgie, puisque voilà, j'écoutais,
je qui était Ren Gianoli,
beaucoup cette musique.
Grande voilà, pianiste
française. Quand j'étais jeune, Ren Gianoli était une pianiste qui faisait une belle carrière lorsque j'avais une vingtaine d'années, on va dire, et qui est la première personne à avoir enregistré l'intégrale de l'œuvre pour piano de Schumann. Voilà. Et je voulais lui rendre cet hommage. C'était une pianiste très différente peut-être d'autres pianistes qu'on va entendre, qu'ils soient homme ou femme dans cette émission. C'était une pianiste justement qui avait une capacité de très grande communication avec la musique de Schumann. Je ne sais pas si elle l'avait personnellement, mais je le ressentais quand elle jouait. Elle avait un petit grain. Voilà. Et donc, alors je ne sais pas du tout si elle l'avait, hein, personnellement. Elle est en tout cas capable de le transmettre à travers son interprétation. Donc, ses interprétations étaient parfois très décevantes et parfois absolument magnifiques parce qu'on avait l'impression qu'elle rentrait en communication avec ce côté très changeant, fuyant de la musique de Schumann qui passe donc très rapidement en une minute, comme on l'a vu dans cette pièce.
Il faut l'attraper à ce moment-là.
Il faut l'attraper à ce moment. Exactement, j'aime beaucoup cette expression. Il faut l'attraper pour le pianiste qui le joue, mais pour l'auditeur qui est dans la salle aussi. C'est peut-être là la difficulté pour l'auditeur. Effectivement, il a écrit énormément de longs cycles avec des pièces très courtes et donc qui font alterner ces personnages
intérieurs.
Il faut tout
le temps être apte.
Voilà, absolument.
Donc attentif.
Voilà, tout à fait. Mais c'était une remarquable pianiste et quand même, rendons-lui cet hommage, première personne à enregistrer la totalité de l'œuvre.
C'est bien que vous ayez rappelé qui était donc Ren Gianoli, magnifique pianiste qu'on entendait beaucoup dans les années 60-70 en fait.
Absolument. Hein.
Alors, une des particularités de Schumann et de son œuvre, et ça vous avez tenu à le souligner, c'est son goût pour la fantaisie. Fantaisie dans tous les sens du mot, au sens de l'imaginaire, du fantastique d'une part, et d'autre part, de la pièce musicale courte, au caractère changeant que vous évoquiez à l'instant, la fantaisie, et il y a beaucoup de choses comme ça chez Schumann.
Absolument. Alors c'est un mot qu'il aimait beaucoup, hein. Il a composé des Fantaisiestücke, donc on parlait des Nachtstücke, des pièces nocturnes.
La Fantaisie opus 17.
Voilà, la Fantaisie opus 17. Et puis même quand il ne les a pas appelées comme ça, on sent qu'il y a constamment dans son œuvre, donc cette fantaisie.
Les scènes d'enfants.
Voilà, les scènes d'enfants.
L'album pour la jeunesse. Les scènes
fait.
Des bois, on est toujours dans un univers de fantaisie.
De fantaisie, alors fantaisie pas du tout au sens effectivement d'un fantaisiste de musicaux, là ce n'est pas
oui,
Maurice
c'est...
Chevalier.
Oui,
voilà,
non, c'est pas quelqu'un c'est pas qui vient faire ça. Un tour pour
c'est
faire
ça.
Gondoler la salle.
Non. C'est ça, mais la fantaisie au sens très allemand, c'est un mot très allemand dans ce sens-là, c'est-à-dire vous savez la forêt profonde avec ses
oui,
êtres de
oui.
fantaisie, les elfes, les nains,
les lutins,
voilà exactement. Et c'est cet univers-là effectivement, comme c'est un univers très proche de l'imaginaire et très proche de l'enfance, qu'a cultivé beaucoup Robert Schumann.
Puisqu'on parle de fantaisie, nous allons écouter un extrait des Fantasiestücke opus 12, la deuxième pièce, Hauschung, interprétée par Martha Argerich. Hauschung, l'élan, la deuxième pièce des Fantasiestücke, opus 12 de Robert Schumann, interprétée par la grande Martha Argerich. Grande pianiste et grande interprète de Schumann. En tout cas, on vient de le voir.
Absolument. Voilà. Alors, apte, plus que beaucoup d'autres, à ses changements d'humeur brutaux, voilà, parce que je pense que c'est quelqu'un...
Correspond aussi à son tempérament.
Ça correspond tout à fait à son tempérament, voilà, je pense que, comment dirais-je, une évidence de dire qu'elle est moins à l'aise avec les grands développements beethoveniens, par exemple, très construits, une architecture pensée sur l'ensemble d'un mouvement d'un quart d'heure ou 20 minutes, mais cette espèce de versatilité expressive qu'il y a dans la musique de Schumann, et alors on entend là, je trouve, de manière absolument extraordinaire, ce côté fantaisie par ses changements constants d'humeur, cet élan au début, presque obsessionnel, tant et puis ce passage qui s'apaise, et puis voilà, on change constamment d'affect, et c'est effectivement la caractéristique de Schumann que Martha Argerich vit intensément.
Alors c'est bien, parce qu'on vient d'écouter deux pianistes femmes, et on va parler maintenant de la rencontre, la grande rencontre de la vie de Schumann, de sa vie d'homme et de musicien d'ailleurs, celle de Clara, sa future épouse. En fait, Schumann avait commencé des études de droit, on va pas être surpris, ça ne le passionnait guère, et il prenait en même temps des cours de piano avec un monsieur qui s'appelait Friedrich Wick, un professeur très renommé, mais pas tendre du tout. Avec ses élèves, bon, ça c'est le cas de beaucoup de professeurs,
absolument,
de piano. Et ce Friedrich Wick avait une fille qui s'appelait donc Clara Wick à l'époque, et dont Robert Schumann va tomber très amoureux. Il faut dire qu'elle avait beaucoup d'atouts pour le séduire, entre autres d'être une pianiste prodige.
Voilà, absolument. Alors Clara Wick est une immense artiste, on pourrait dire, et déjà très jeune, puisque lorsque Robert Schumann l'a connue, elle avait une dizaine d'années, il en avait 10 de plus environ, hein. Elle avait déjà donné des concerts au Gewandhaus de Leipzig, hein, c'est-à-dire la plus grande salle de Leipzig, là où enseignait son père, Friedrich, et c'était une pianiste, on pourrait dire, prodige, voilà, comme on en a connu à toutes les époques, hein, comme l'a été Mozart avant elle, et comme l'ont été un certain nombre d'autres pianistes plus tard. Et donc, Schumann en est tombé amoureux. Cet amour s'est développé petit à petit, évidemment, le temps que cette toute jeune fille devienne, cette
surtout
cet enfant,
hein,
voilà, devienne une jeune fille, voilà. Et ça a été, en réalité, alors la grande chance, on pourrait dire, de Schumann sur plusieurs plans. D'abord, parce qu'effectivement, cet amour est absolument splendide dans la rencontre de ces deux grandes personnalités.
On voit dans leurs lettres, les lettres,
voilà,
sont sublimes.
Ils ont, il y a d'ailleurs, c'est un livre que je recommande
magnifique
à chacun de lire. C'est un livre absolument magnifique, le recueil des lettres de Robert et de Clara Schumann, qui est aussi, effectivement, un manifeste du romantisme, enfin, de l'amour romantique, disons, et aussi parce que lui, n'étant plus en capacité de jouer ses pièces et donc de les promouvoir à travers le monde, de les faire connaître, c'est Clara qui a aidé Schumann à répandre sa musique.
Bah, on a du mal à le croire aujourd'hui, mais c'était lui qui était un peu le mari de la pianiste. C'était le mari de la grande pianiste.
Absolument, pendant tout un temps.
C'était pas elle qui était la femme du grand compositeur.
Absolument, pendant tout un temps, Clara a été plus connue que Robert Schumann, et c'est seulement petit à petit que la bascule s'est inversée pour plusieurs raisons. D'abord parce que la musique de Schumann a commencé à se répandre et à avoir du succès en Allemagne, et ensuite, parce que, évidemment, la carrière de Clara a commencé à baisser du fait que, bon, ben voilà, elle a huit enfants avec Robert Schumann. Elle avait quand même, elle a eu ce poids terrible de supporter cet homme qui était évidemment passionnant, qui était passionnément amoureux, mais qui était en même temps quelqu'un d'invivable au quotidien, avec ses crises de dépression violentes, avec
ses colères,
son angoisse, son alcoolisme, il faut bien le dire aussi, il était alcoolique. Voilà. Et donc, il n'était pas alcoolique, on ne peut pas dire ça. Disons
qu'il se réfugiait dans l'alcool.
Voilà, ce n'était pas quelque chose de constant, mais lorsqu'en particulier quelque chose le blessait, une attitude de quelqu'un, il était hypersensible, comme on l'imagine.
Ah bah, il paraît que dans une conversation, s'il se sentait offensé pour une raison ou pour
voilà,
une autre, ou qu'il estimait qu'on lui avait manqué de respect, il quittait la conversation
sans rien dire. Il s'en allait, il se réfugiait dans la solitude, et là, à ce moment-là, il se mettait à boire. Donc, on imagine le calvaire qu'a vécu cette femme, mais en même temps, pensons aussi à l'extraordinaire rencontre de ces deux personnes, de ces deux âmes si proches, et qui se sont épaulées l'une l'autre pendant toute
Alors,
une partie de
la relation n'est pas allée de soi au début, parce que le père, Friedrich Wick, s'y est opposé, mais alors frontalement, hein, pas de mariage, il ne voulait pas entendre parler de
Absolument, il trouvait que Robert n'était pas du tout au niveau de sa,
il
n'était pas digne de sa fille, pour laquelle il voyait une carrière brillante, etc. Et il voulait donc, il aurait probablement préféré quelqu'un de moins romantique, mais avec des assises financières plus solides, on va dire, quelque chose comme ça, voilà. Et il a fallu donc un procès, Robert et Clara, ce qui est terrible, je pense, pour une fille
procès
à l'époque,
ont
fait un
beau-père,
pour avoir l'autorisation de se marier après une longue procédure qui est relatée dans leurs lettres. C'était un combat absolument terrible. Ils ont fini par l'emporter et ils ont eu le droit de se marier.
Alors, ils ont vécu d'abord à Leipzig. Alors, ils faisaient salon, hein, c'était très mondain. Hein. J'ai vu, ils organisaient des concerts, des lectures, ils recevaient beaucoup. Couple de haute culture,
dont
on recherchait la compagnie, ce qui n'étonnera personne. Et puis, donc, Clara, eh bien, c'est aussi une compositrice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa musique?
Alors, moi, je pense que la musique qu'elle nous a laissée, on va dire, est imparfaite, avec des chefs-d'œuvre absolus et avec des œuvres, on va dire, plus de circonstances. Voilà. Mais je n'ai pas envie de la juger comme ça. Je pense qu'on ne peut pas dire, parce qu'à l'époque, c'était impossible qu'une femme devienne compositrice. D'ailleurs, elle l'a écrit elle-même dans son journal. C'est pathétique. À un moment donné de sa vie, elle écrit elle-même « Je ne peux pas devenir compositrice puisqu'aucune femme ne l'a été avant moi ». Et ça, c'est terrible parce que là, c'est vraiment la pression sociale, disons, hein, qui était exercée sur les femmes de l'époque, qui a fait qu'elle a renoncé à cet art. Mais imaginons que comme Schumann, comme d'autres compositeurs du temps, elle l'ait développé, elle l'ait cultivé, elle serait devenue, à mon avis, une des grandes compositrices du 19e siècle. Voilà. Mais elle a quand même
hommes
laissé...
Hommes et femmes confondus.
Hommes et femmes confondus. Elle a quand même laissé vraiment des œuvres absolument magnifiques, et je pense qu'on va en avoir un exemple. Et
absolument, il y a de très belles pièces dans l'œuvre pour piano de Clara Schumann. Nous allons écouter, par exemple, son Scherzo en do mineur. Il est interprété par Joseph de Beethoven. Le Scherzo en do mineur de Clara Schumann, interprété par le pianiste belge Joseph de Beethoven. Ça aussi, ça vous plaît, cette musique, Michel?
Ben, en tout cas, la parenté avec Robert Schumann est incroyable. Enfin, on a l'impression d'entendre du Robert Schumann, peut-être, bon, avons-le nous, un moins génial, mais quand même, ce même frémissement, ce même emportement, bon, qui est propre à la musique pour piano romantique, mais quand même, il y a un véritable talent. Et puis alors, on voit dans cette œuvre toute la virtuosité dont était capable Clara Schumann. L'ensemble des œuvres qu'elle a écrites sont effectivement, d'une manière générale, très difficiles. Difficile pour les pianistes, pour le piano. Voilà, toute cette personnalité très riche peut s'entendre dans cette pièce.
On a parlé de la santé morale déficiente de Schumann, mais il a eu aussi des déboires physiques. Vous avez raconté cette anecdote de cet appareil là qui s'était construit pour faire travailler ses doigts, et puis là, un accident domestique finalement, hein, qui va lui laisser un doigt, pas une main entière quand même, mais un doigt paralysé, quasi paralysé. Il avait ces fortes douleurs dans les bras, donc on voit à quel point ça a quand même été une vie de souffrance morale et physique que celle de Robert Schumann. On a vu ça chez beaucoup d'artistes romantiques. Il a vraiment, mais tout chez lui nous ramène à l'artiste romantique,
absolument,
comme on l'imagine
absolument,
aujourd'hui.
Absolument. Mais ce qui est curieux, je trouve, dans tout ça, c'est que ça n'est pas parce qu'on n'est pas un artiste romantique qu'on ne rencontre pas les mêmes choses, mais on ne les transfère pas de la même manière dans sa musique. Voilà. Par exemple, parlons d'un compositeur, ben, vous le savez, qui est mon compositeur de chevet, Jean-Sébastien Bach. Il y a une période de sa vie, alors comme il ne se confiait pas de journal, pas de correspondance avec ses épouses, hein, puisqu'il était marié deux fois, puisqu'il était veuf, pas de correspondance, pas de journal intime, donc on ne sait rien de ses affects intérieurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une période de la vie de Bach, au milieu, où il n'écrit rien pendant 2 ans. Et on sait qu'à cette période-là, il y a eu des choses difficiles dans sa vie, très difficiles dans sa vie. Est-ce que Bach n'a pas fait une dépression ? Ça n'est pas parce qu'on est un compositeur baroque, ça n'est pas parce qu'on est éclairé, on va dire, par la foi, ce qui était le cas de Bach, qu'on ne vit pas des choses qu'ont pu vivre les compositeurs romantiques. La différence, c'est que l'on dit. Voilà.
Nous avons tous une part de nuit en nous.
Voilà, absolument, c'est très bien dit, je n'en rajouterai pas. Voilà. Et donc, ça suffit.
Alors, donc, problème physique, mais il a toujours gardé ce goût pour la virtuosité. Et on voit ça dans des pièces qui sont toujours, presque toutes, je crois, très difficiles pour les interprètes, notamment les études symphoniques.
Tout à fait. Alors, les études symphoniques, c'est une œuvre qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, c'est une pièce qui date, il faut savoir que de son opus 1 à son opus 23, donc les 23 premières œuvres, qui sont toutes des œuvres donc très développées, hein, qui font toutes environ une demi-heure, à quelques exceptions près, composées donc à l'intérieur, comme on l'a dit souvent, de petites pièces courtes. C'est le cas de ces études symphoniques, donc, sont des œuvres pour piano. Les 23 premières œuvres de Schumann sont des œuvres pour piano. C'est dire si le piano était important dans sa vie à cette période-là. Et donc, ces études symphoniques sont en réalité des variations. Il l'a pas dit, hein, mais c'est des variations sur un thème.
Des études en forme de variation.
Voilà, des études en forme de variation. Mais le mot étude veut bien dire quand même, malgré ça, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire c'est des études pour le piano. Et on va l'entendre, des études ô combien exigeantes. Alors elles n'ont pas le côté aussi démonstrativement virtuose que celle de Chopin, voilà. Mais il y a quand même la même idée d'une étude à l'autre, hein, de mettre à l'épreuve la virtuosité dans différents domaines du pianiste.
Alors on parle des études de Chopin. Qui est le grand interprète des études de Chopin ? C'est Maurizio Pollini.
Absolument, il est insurpassé, je pense.
Voilà, on sera d'accord là-dessus, on est d'accord sur beaucoup de choses, mais on sera d'accord aussi sur celle-ci. Voici un extrait des études symphoniques de Robert Schumann, la troisième étude Vivace, interprétée par le grand Maurizio Pollini. La troisième étude Vivace des études symphoniques de Robert Schumann, interprétée par Maurizio Pollini. C'est vraiment une petite merveille, cette pièce. Alors, quelle interprétation ? Est-ce qu'on peut faire mieux ?
Alors, je ne sais pas. On ne peut jamais dire ça, évidemment, en particulier dans le domaine de l'art. Mais j'avoue que, pour moi, c'est peut-être mon plus beau disque Schumann. Voilà. Ce disque donc, que Maurizio Pollini a consacré aux études symphoniques. Il a consacré quelques enregistrements dans sa grande période, quand il avait une quarantaine d'années. C'est absolument génial. Et la musique là, de Schumann, pour moi, est absolument géniale. On sent bien tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, ces espèces de pulsions vers quelque chose de haut et qui à chaque fois retombe, cette espèce de flux constant, tellement expressif, tellement touchant. Moi, ça me touche en tout cas énormément.
Et je pense qu'on y sent aussi le côté maniaco-dépressif donc de l'artiste Schumann, de l'homme Schumann. Schumann qui n'avait pas qu'une activité de pianiste et de compositeur, Michel, il était aussi critique musical. Il avait même créé un journal musical. Alors ça, c'est son côté littéraire là, qui ressort.
Là, c'est très clair. Je pense que c'est quelqu'un qui a renoncé à la littérature, peut-être se rendant compte que ou on ne pouvait pas faire les deux, ou il n'avait pas le talent d'écrire des romans, peut-être, hein, mais il a toujours aimé écrire. Alors, il a une correspondance très importante, un journal intime, et puis, effectivement, il a créé un journal musical dans lequel il faisait part de ses goûts, de ses humeurs, voilà. Et ça a été un critique extraordinaire, parce que il avait, alors évidemment, non seulement une très grande connaissance de la musique, et donc une manière d'appréhender les compositeurs très forte, mais un désintéressement total. C'est quelqu'un qui n'était absolument pas jaloux.
Ah oui, alors ça c'est extraordinaire, parce que ses écrits sont complètement exempts de la moindre trace de jalousie.
Voilà, absolument.
Ce qui n'est pas commun quand même, parce que les grands entre eux, parfois ils sont petits. Hein.
Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est étonnant, dans une période où le romantisme invite à une certaine forme d'introspection, à une certaine forme éventuellement de narcissisme, et on a l'impression que Schumann n'avait pas de narcissisme en ce qui concerne le talent. Il est le premier à reconnaître le talent des autres, voilà. Et donc il y a une
chose. Et il s'intéressait à ce que faisaient ses contemporains, sincèrement.
Tout à fait. Et donc en particulier, une des raisons de l'invention de ce journal de critique, donc c'était, il croyait beaucoup en l'évolution de l'art. L'art devait conquérir des nouveaux territoires, et donc c'était une lutte des David, des représentants de David, donc des David Bündler contre les Philistins, voilà. Et ça c'était la grande raison d'aide de son journal.
Alors, les compositeurs postérieurs à Schumann se sont aussi beaucoup intéressés à sa musique, entre autres Maurice Ravel, orchestrateur de génie s'il en est, qui a orchestré le Carnaval Opus 9. Voici un extrait de cette version orchestrée par Ravel. Et bien justement, c'est la marche des compagnons de David contre les Philistins. Elle est dirigée par le chef allemand Dirk Jerez. La marche des compagnons de David contre les Philistins, extrait du Carnaval opus 9 de Robert Schumann dans la version orchestrée par Maurice Ravel et dirigée ici par Dirk Jeurès. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que Ravel a fait de cette œuvre, Michel ?
Ah, je suis totalement soufflé. J'avoue très honnêtement qu'avant d'entreprendre le travail de préparation de cette émission, je ne savais absolument pas que Ravel avait orchestré
Moi,
de la musique de Schumann.
Moi qui adorais Ravel et tout connaître de lui, mais j'ai découvert aussi.
Bon, ben voilà, très bien. Je suis très content. Je l'ai découvert pour moi et je suis très content de vous l'avoir fait découvrir et très probablement aux auditeurs en grande
partie,
je pense.
Ah oui, en plus, c'est magnifique.
Voilà. Et alors, c'est génial, vraiment. On est confondu devant l'intelligence, des couleurs de ce compositeur. Et on voit ce côté qui existe donc aussi dans la musique de Schumann, qui est presque renforcé par la version orchestrale, qui a un côté un peu pompier. C'est-à-dire, cette marche des David contre les Philistins, il n'y va pas avec le dos
martial,
de la cuillère.
Hein,
c'est martial, voilà. Absolument. Il voulait vraiment les mettre bas, ces Philistins.
On parlait il y a quelques minutes là, de l'activité de critique musicale de Schumann. Quel rapport entretenait-il avec les autres compositeurs et musiciens de son temps ? On sait par exemple qu'il a eu une grande amitié avec Mendelssohn.
Voilà, tout à fait.
Qui lui a fait découvrir la musique de, comment s'appelle-t-il ce compositeur ? Vous le connaissez un peu ?
Voilà, Jean-Sébastien Bach.
Voilà, c'est lui.
Absolument. Et effectivement, alors il a eu cette incroyable ouverture d'esprit que quand un talent lui apparaissait, il lui apparaissait par des partitions qu'il recevait ou par des concerts auxquels il allait assister, il était capable de s'enthousiasmer pour ce qu'on aurait pu considérer comme un concurrent. Et lorsqu'il découvre la musique de Chopin, voilà ce qu'il écrit dans son journal. « Chapeau bas, messieurs, un génie ». Voilà, tout simplement. C'est incroyable, hein, c'est incroyable cette modestie, on pourrait dire, de Schumann qui jamais n'a ménagé son admiration.
Et ses enthousiasmes lorsqu'il était face à quelque chose qui lui semblait génial,
voilà,
il le disait.
Absolument, il n'y avait aucune, comment on pourrait dire, mesquinerie dans son attitude dans ce cas-là.
Alors Schumann, on parlait de Bach, là, il va écrire dans le style de Bach et il va même arranger ses suites pour violoncelle.
C'est ça, absolument. Alors ça, c'est un truc qui est totalement inconnu de nos jours, qui est d'ailleurs, à mon avis, une impasse. Parce que
oui, ça paraît comme ça.
Il a rajouté une partie
étonnant.
De piano aux suites pour violoncelle seule.
Oui, oui.
Or, rajouter une partie de piano, ça veut dire mettre une harmonie. Or, l'harmonie, Bach l'a fait figurer, mais évidemment avec un instrument mélodique, il l'a fait figurer échelonné dans le temps. Mais elle existe. Et donc, ça n'est pas une mélodie qu'on aurait besoin d'accompagner comme un leader, mais c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui contient la mélodie et l'harmonie, et donc vouloir lui rajouter une partie de piano est un petit peu vain.
L'une des pièces du Carnaval opus 9, encore lui, la 12e, est intitulée justement Chopin. C'est un hommage, bien sûr, composé du vivant de Chopin, puisque le Carnaval date de 1834-1835. En voici une version interprétée par le regretté pianiste russe Yuri Egorov. Chopin, 12e extrait du Carnaval opus 9 de Robert Schumann, interprété par le pianiste russe Yuri Egorov. En quoi cette pièce est-elle un hommage à Chopin, Michel ? Il n'a pas donné ce titre-là par hasard.
Non, ah ben je pense qu'on reconnaît quand même beaucoup de l'univers de Chopin, justement, cet univers tendre, d'une effusion, disons, plus sentimentale que celle de Schumann, moins violente, moins tourmentée. Et quel bel hommage qu'un compositeur, c'est quand même rare dans l'histoire de la musique, hein, qu'un compositeur apprécie tellement un autre compositeur qu'il lui, non pas dédie une œuvre, ça c'est fréquent, mais qu'il appelle une de ses pièces du nom de ce compositeur. Ça, je trouve ça vraiment très remarquable.
On sait que Schumann s'est essayé à la direction d'orchestre.
Absolument.
Mais comme Maurice Ravel, dont nous parlions il y a quelques minutes là encore, il s'est révélé assez médiocre dans cet exercice, peut-être parce qu'il avait du mal à contrôler ses gestes, hein, en raison de ses douleurs au bras, à la main, je ne sais pas. Il a aussi composé pour l'orchestre 4 symphonies donc, et un concerto pour piano. Mais là, contrairement à Ravel, il est considéré comme un piètre orchestrateur. Est-ce que c'est aussi votre avis, Michel ?
Alors, on va dire que son orchestration n'est pas conventionnelle. Voilà. Son orchestration apparaît souvent comme un peu opaque, avec une tendance à regrouper les instruments dans le bas du spectre, ce qui fait que leur timbre se dégage assez peu. Et donc, on a quelque chose d'un peu touffu, d'un peu confus, peut-être, comme orchestration. Mais on peut considérer que c'est un défaut. Alors, peut-être s'il avait été l'élève de Ravel, ce qui, évidemment, est impossible, puisqu'il y a, quelques dizaines d'années de différence entre les deux hommes, peut-être que Ravel, son professeur, lui aurait dit « Maintenant, vas-y, il faut que tu t'y prennes comme ci ou comme ça. » Ou on peut aussi considérer que c'est sa caractéristique et que donc, il faut l'accepter
c'est
comme
ce
tel.
C'est ce que j'allais dire.
Et que c'est sa richesse.
Ça lui ressemble, tout simplement.
Voilà, ça lui ressemble. Et effectivement, il ne pouvait pas orchestrer comme Beethoven avant lui et comme Ravel après lui, mais avec sa propre palette très sombre. D'une manière générale.
Oui, ça n'étonnera personne. D'ailleurs, ce concerto unique pour piano est composé en la mineur.
Absolument, en la mineur, comme beaucoup d'œuvres de Schumann. Hein. Il aimait beaucoup le mineur, qui est la tonalité triste.
On va écouter un extrait donc, de ce seul et unique concerto pour piano de Robert Schumann en la mineur. C'est un passage du premier mouvement et il est interprété encore par un pianiste russe, très jeune celui-ci, puisqu'il s'agit de Daniil Trifonov, accompagné ici par l'orchestre de la Fondation Gulbenkian, dirigé par Anu Lintu. Extrait du premier mouvement du concerto pour piano en la mineur de Robert Schumann, interprété par Daniil Trifonov, accompagné par l'orchestre de la Fondation Gulbenkian sous la direction d'Anu Lintu. Là, on tient une des œuvres les plus célèbres et les plus jouées de Schumann. Est-ce que c'est tout de même un des grands concertos romantiques pour vous ?
Ah ben, incontestablement, je ne sais pas si on peut dire le plus grand, mais enfin, c'est une œuvre absolument magnifique.
Je sais que beaucoup de pianistes le considèrent comme le plus grand, en tout cas
oui,
celui qu'ils préfèrent jouer.
Voilà, tout à fait, c'est une œuvre extraordinaire, faut bien reconnaître. Alors c'est une œuvre étrange d'ailleurs parce que elle a été composée en deux temps. Hein, il avait tout d'abord composé, bah, devinez quoi, une fantaisie pour piano et orchestre. Voilà, le premier mouvement, ce qui est devenu le premier mouvement. Et quelques années plus tard, probablement parce que c'est à l'instigation de Clara qui trouvait qu'à jouer en concert une pièce d'un quart d'heure 20 minutes n'était pas suffisante par rapport au modèle habituel du concerto qui illustrait bah, Chopin et qu'allait illustrer quelques temps plus tard Brahms. Et donc elle lui a demandé de compléter ce concerto. Et il a rajouté ensuite le mouvement lent et le final, qui effectivement, à mon avis, ne sont peut-être pas tout à fait du même niveau que le premier mouvement, mais qui est complètement génial. Ce premier mouvement, c'est extraordinaire, vraiment. Quoi.
Et joué par Daniil Trifonov, et je sais que vous l'aimez beaucoup,
ah
ce
oui.
pianiste.
Alors là, vraiment, voilà un pianiste de la jeune génération que je trouve absolument extraordinaire.
Là, c'est le premier que nous avons écouté aujourd'hui, voilà. Mais c'est bien de terminer par lui.
Ah, c'est très bien de terminer cette émission par lui, absolument.
Par nos grands pianistes actuels.
Un des grands pianistes actuels qui devait d'ailleurs venir à Toulouse dans quelques mois.
Mais qui va revenir, je pense, aux grands interprètes la saison prochaine, forcément, une fois que nous serons sortis de cette sinistre crise sanitaire. Voilà donc pour le premier volet consacré à ce merveilleux compositeur. J'espère que nous aurons convaincu les auditeurs de cette émission d'explorer encore plus que nous ne l'avons fait l'œuvre de Schumann. Sachez que toutes les pièces que nous avons diffusées se trouvent en accès libre sur YouTube. Merci infiniment Michel Brun d'avoir apporté votre enthousiasme, votre érudition et votre passion communicative à ce numéro de Mélomanie. Moi, je me suis vraiment régalé encore une fois à l'animer en votre compagnie. Avant de rendre l'antenne, je rappelle les concerts de la saison Toulouse Guitare et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, vendredi prochain, le 26 mars, retransmis en direct sur leur page Facebook respective. Pour Toulouse Guitare, c'est à 20h, avec en première partie la jeune Alicia Stoubé, puis Thomas Xaba en concert principal. Pour l'Orchestre de Chambre de Toulouse, c'est à 20h30. Notez que ces deux concerts resteront visibles en replay ensuite. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, bon week-end et excellente semaine à tous.